Europe 1.
Heures, 10h. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon week-end. Jean-François Colosimo est mon premier invité ce matin. Il vient de publier Occident, ennemi mondial numéro 1. On va revenir avec lui sur la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po, sur l'arrivée lundi à Paris du numéro 1 chinois Xi Jinping et sur la menace qu'Emmanuel Macron vient de réitérer dans une interview à The Economist d'envoyer des troupes en Ukraine. Et puis à un mois des élections européennes, je reçois Martial Libera pour son livre Idées reçues sur l'Union européenne. On va pouvoir vérifier avec lui que l'Europe est bien tout ce que l'on nous dit qu'elle est. Et l'on terminera l'émission avec Françoise Chandernagor. Elle va nous emmener dans la Creuse, qui n'est pas non plus ce que l'on croit.
Europe 1.
Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Historien, théologien, éditeur, vous venez de publier Occident, ennemi mondial numéro 1 chez Albin Michel. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Le monde entier se rangeait sous la bannière des démocraties occidentales. Rappelez-vous la guerre du Golfe. Les États-Unis avaient rassemblé une coalition militaire internationale de 35 États, dont 10 pays musulmans, pour bouter Saddam Hussein hors du Koweït. L'Occident, c'était l'ami qui vous voulait du bien. Alors que s'est-il passé pour qu'on devienne 30 ans plus tard, l'ennemi mondial numéro 1?
Je crois que d'abord, cet Occident était un Occident véritablement fantasmé. En fait, à la sortie de l'affrontement entre les deux blocs, l'empire du bien et l'empire du mal, et réciproquement, vice-versa, selon la manière dont on se positionnait du côté de Washington ou de Moscou, il y a eu cette illusion de la fin de l'histoire, de la mondialisation heureuse. On en avait fini avec les conflits, en tout cas les conflits les plus tragiques. On allait tous en quelque sorte devenir des consommateurs universels de ce grand marché planétaire qui serait voué au bonheur. Non, l'histoire nous a rattrapés, le tragique nous a rattrapés. Et puis on n'a pas vu que pendant ce temps, il y avait des empires dont on pensait qu'ils avaient hiberné, dont on pensait qu'ils étaient morts, enfin, mais qui en fait étaient en train de réarmer, et ils réarmaient en prétendant à leur tour à être l'hyperpuissance, la surpuissance. Ils voulaient à leur tour la place du numéro 1 sur le podium, n'est-ce pas, celle qu'occupent les États-Unis. Et comme nous sommes largement vassalisés, dépendants, satellisés par les États-Unis, eh bien nous suivons, mais nous sommes un peu le ventre mou de ce Occident fantasmé. Et puis les erreurs américaines depuis, en fait, 2001 et l'attentat contre les Twin Towers, cette espèce de Far West apocalyptique qu'ils ont mené à travers la planète pour punir, n'est-ce pas, les djihadistes. Mais les djihadistes, c'est la terreur ubérisée, c'est un ennemi insaisissable. Donc ils ont multiplié les conflits, ils ont enflammé le Proche-Orient, les États-Unis. Et puis, ils ont menti pour ce faire, c'était évidemment le fameux faux prétexte de la guerre d'Irak, et ils ont fourni à ces empires, qui sont de méchants empires, qui sont des empires despotiques, qui sont des empires plus impérialistes, qui sont des empires plus colonialistes, qui sont des empires plus occidentalistes, si on décrit l'Occident comme le mythe de la puissance qui écrase tout, n'est-ce pas ? Donc ces empires-là, à savoir l'Iran, l'Inde, la Turquie, la Chine et la Russie, bien sûr, eh bien ces empires-là ont prétexté de cela pour désigner un Occident menteur, un Occident hypocrite, un Occident corrompu, corrupteur et surtout décadent.
Mais on a quand même raté quelque chose, Jean-François Colosimo. Je me souviens, les années 90, ça a été un âge d'or pour l'Occident. On était riches, on était puissants, plus personne ne nous menaçait. Et on pouvait penser à ce moment-là que les Chinois, les Russes, les Indiens, les Turcs aussi, allaient devenir effectivement des consommateurs. Mais ils en avaient envie à ce moment-là. Ils avaient été privés de tout pendant si longtemps qu'ils avaient tous envie. Quand Xiaoping disait aux Chinois « Enrichissez-vous », mais les Chinois, ils avaient envie de s'enrichir, ils n'avaient pas spécialement envie de récupérer Taïwan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en si peu de temps, on perde toutes nos cartes, j'ai l'impression?
Alors je crois que justement, si vous permettez, l'année qui compte, l'année bascule, c'est pas 1989, c'est 1979, le retour de l'imam Khomeini à Téhéran, l'avènement de la première République islamique, mais c'est l'année aussi où la puissance soviétique, pour la première fois, va être défaite en Afghanistan par les Moudjahidines, les soldats de Dieu. C'est l'année où Reagan gagne l'investiture républicaine pour arriver à la Maison Blanche grâce au retour en politique des évangéliques. C'est l'année où le pape Jean-Paul II, le premier pape non italien depuis des siècles, franchit le rideau de fer et montre que les icônes sont plus fortes que les tanks en allant à Varsovie, n'est-ce pas ? C'est l'année du réveil du religieux, en fait, donc 10 ans avant la chute du mur. Et d'ailleurs, pour le dire, c'est aussi cette année-là, parce que c'est pas magique, c'est une année qui concentre beaucoup de ces événements, c'est cette année-là qu'est édifiée la première université islamique à Gaza. Et c'est la première fois aussi que des religieux sionistes, le Gush Emunim, le bloc de la foi, entrent à la Knesset, au Parlement israélien. Le monde bascule, le monde ne vit pas que de biens matériels, n'est-ce pas ? La prospérité, ça ne suffit pas. L'être humain, c'est un être symbolique qui a besoin, en fait, de rapport à la transcendance, de rapport à l'immanence, de rapport au dépassement de soi, de donner un sens à la vie et surtout à la mort. Et de ce point de vue-là, on n'a pas vu que ces empires qui étaient héritiers, en fait, de moments très nationalistes, autoritaires, ou de moments très communistes, totalitaires, en fait, ces empires-là, ils avaient désormais la volonté de continuer sur cette trajectoire, écraser toute dissidence à l'intérieur et conquérir à l'extérieur, mais qu'ils avaient compris, en fait, que l'erreur de leurs prédécesseurs, les Mao, Lénine, Mustafa Kemal, Reza Pahlavi, Nehru, etc., ça avait été d'abolir la religion, c'est-à-dire d'abolir la culture, l'identité. Et que l'identité religieuse, c'est le meilleur des carburants, en fait, pour la conquête.
Jean-François Colessimo, votre livre est aussi un livre d'histoire. Hein. Vous remontez très loin dans le temps, mais arrêtons-nous sur Xi Jinping qui arrive à Paris lundi en visite officielle. Qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, d'un Xi Jinping ?
Je crois que, si vous voulez, si on se place dans l'idée que nous avons eu la démonstration que l'Amérique n'était guère fiable et puis que c'est une Amérique qui se pose des questions, des doutes sur son identité comme jamais. Il y a eu deux événements abominables, je dirais, pour les Américains. C'est la profanation du Capitole par les Trumpistes. C'est le Capitole, la Constitution, c'est sacré. Et puis deuxièmement, le départ bâclé d'Afghanistan, décrété par Biden. 20 ans de guerre, 3500 milliards de dollars dépensés, des centaines de milliers de victimes pour apporter la liberté et laisser le pays aux talibans. Un tête-à-queue aussi monstrueux que celui du Capitole. Donc, nous avons appris que nous sommes seuls en Europe, et nous avons appris, nous, Français, sommes les seuls à avoir l'arme nucléaire, à avoir une armée complète, à être présents sur toutes les mers. Nous avons appris qu'en plus, on était assez seuls en Europe. Non, l'Europe est seule, mais nous, on est très seuls au sein de l'Europe, particulièrement face à une Allemagne qui a délibérément, depuis 1945, confié sa sécurité à Washington. Donc, nous sommes seuls. Mais nous sommes seuls, donc nous nous retrouvons dans cette position assez classique de la France à travers son histoire millénaire, qui est celle d'un royaume qui joue les empires les uns contre les autres, n'est-ce pas, pour essayer de trouver son chemin, et qui s'appuie aussi sur les rébellions des peuples, n'est-ce pas, pour maintenir sa propre liberté. Xi Jinping, il est tout à fait représentatif de ça, vous voyez, de la même manière que Poutine restaure les monastères que les KGBistes dynamitaient. Lui, il cite Confucius, dont les écrits étaient vraiment brûlés à un auto-da-fé par les gardes rouges, parmi lesquels son père, n'est-ce pas ? Mais maintenant, il cite Confucius parce qu'il y a un confucianisme d'État qui permet, en fait, mieux que le marxisme, en fait, d'asseoir la mobilisation. Alors cette Chine, en fait, nous ne sommes pas dupes. Elle est dans un mécanisme quasiment génocidaire par rapport aux Ouïghours. Ça, c'est vrai, malheureusement. Et c'est terrible. Mais en même temps, elle nous sert aussi à, je dirais, faire valoir à l'Inde que nous sommes aussi importants, puisque le combat titanesque de demain, il va être autour de ce nouveau bassin du monde. Il y a eu la Méditerranée jusqu'au Moyen-Âge. il y a eu l'Atlantique jusqu'à aujourd'hui, demain c'est le Pacifique, et c'est l'océan Indien plus généralement, ça va être l'Asie, et le combat entre ces deux titans, la Chine et l'Inde, va déterminer une part du monde. Nous voulons aussi raisonner Xi Jinping de manière à ce que lui-même raisonne Poutine pour éviter véritablement la catastrophe en Ukraine, que serait en fait le fait que les Ukrainiens cèdent, que le front cède et que Poutine gagne.
Ce que ne veut pas Emmanuel Macron, il l'a redit à The Economist. On fait une pause, Jean-François Colosimo, et on en parle tout de suite après.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadéhi. Nous sommes ce matin avec Jean-François Colosimo qui publie Occident, ennemi mondial numéro 1 chez Albin Michel. Emmanuel Macron a reparlé d'envoyer des troupes en Ukraine dans une interview à The Economist. C'est le seul moyen d'arrêter les néo-empires, comme vous les appelez, comme la Russie ?
Alors là, on a un problème particulier, n'est-ce pas ? C'est que, en fait, ces néo-empires, ils sont prêts à faire la guerre partout. Vous le disiez, la Chine veut s'emparer de Taïwan, l'Inde veut le Cachemire. La Turquie réclame l'autre partie de Chypre, les îles de la mer Égée, les Balkans et le Haut-Karabakh, où Erdogan a affamé une centaine de milliers d'Arméniens dans un camp à ciel ouvert, rappelant le génocide de 1915. L'Iran, on le voit bien aussi à travers tous les relais chiites dont Téhéran dispose au Moyen-Orient, l'Iran aussi mène sa guerre. Donc ils mènent tout ça. Mais Poutine, qui est leur émule, a transposé cette guerre sur le vieux continent, le continent européen, celui qui portait la promesse depuis 1945 d'être, en fait, la terre de la paix, n'est-ce pas ? De la paix à jamais, plus jamais ça. Ça recommence. Donc ça recommence avec quelqu'un qui, de manière assez claire, affiche sa cruauté et son désir impérial, et je dirais le déploie avec beaucoup de férocité aussi, n'est-ce pas, et de maximalisme. Donc, ne pas l'arrêter là, ça veut dire lui laisser en quelque sorte un sauf-conduit pour qu'il aille plus loin. Ça, c'est réel. Ne pas l'arrêter là, c'est laisser les Russes aussi dans une espèce d'atmosphère irrespirable qui rappelle 1937, n'est-ce pas, où les gens sont espionnés, écoutés, arrêtés, emprisonnés, déportés, voilà. Donc, il faut pouvoir dire non et montrer des limites. Malheureusement, le dilemme américain a fait que les Ukrainiens sont très en retard sur leur campagne, la mobilisation est à la peine. Lui, Poutine, en fait, accumule les armes de la part de ses amis. Ses amis sont quand même l'Iran, la Corée du Nord, peut-être la Chine via la Corée du Nord l'alimente aussi en armes. Il est prêt à prendre encore plus de territoire avant de négocier pour garder ce qu'il a gagné. Il ne faut pas qu'il gagne, voilà, c'est ça l'idée. À partir de ce moment-là, que l'on puisse s'engager contre la Russie, évidemment, ça y ferait, parce qu'on dit, oulala, ça va être le cataclysme nucléaire, etc. Non, Poutine n'en est pas à ce point, et je crois qu'il ne comprend que le langage de la force. Si ce n'est qu'on n'emploie pas exactement le même langage de la force que lui, je pense que lui, c'est vraiment une force aveugle.
Et la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po ou sur les campus des universités américaines, parce que là aussi, hein, c'est très important. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une manifestation anti-occidentale comme au temps de l'opposition à la guerre du Vietnam dans les années 60-70 ou manifestation pour la paix contre la bombe atomique dans les années 50 ?
Ou comme dans ma génération, la fascination pour l'Amérique latine, le Chili...
Cuba,
je pense que il est bon que les jeunesses puissent se passionner pour des causes qui leur sont à peu près totalement étrangères d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue culturel, n'est-ce pas ?
Oui, mais maintenant, ce qui les unit toutes, c'est justement l'anti-occidentalisme.
Voilà,
en général.
Voilà. Maintenant, quand on en arrive à déclarer qu'Israël serait aujourd'hui en train de commettre un génocide, et quand on est en train de traiter les Israéliens de nazis, je pense qu'on est dans une grave faute d'inculture menaçante et qui est en bordure, en fait, véritablement d'une espèce de blasphème sur notre propre histoire.
Alors on disait CRSSS en mai 68.
CRSSS, oui. Si ce n'est que peut-être que les grands-parents des quelques grands-parents de CRS étaient engagés dans la FNSS, mais il n'y avait pas de lien historique, n'est-ce pas? Parce que là, on est face à un renversement du monde, et après le pogrom du 7 octobre, ce qui m'a véritablement frappé, c'est cette vague d'antisémitisme qui a été planétaire, qui a touché des pays dont on pensait même qu'ils étaient plutôt épargnés par ce type de virus. Et on a vu aussi l'Amérique basculer. Donc, il faut se rappeler que l'Amérique, elle était antisémite avant 1930, de manière assez lourde. Henry Ford était le grand pourvoyeur de l'antisémitisme américain. Donc, on voit ce réveil. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce réveil, n'est-ce pas? Alors, chez nous, il y a certainement la haine de soi. La haine de son histoire, la méconnaissance de son histoire. Il y a certainement aussi la prise à partie d'un ennemi qui est considéré comme une espèce de maximum d'Occident, ce qui, là encore, ne cadre pas avec les réalités. Israël a toujours causé beaucoup de problèmes aux États-Unis, n'a jamais véritablement obéi aux États-Unis. Israël est une société qui s'orientalise énormément. Je veux dire, Israël était à deux pas d'intégrer, en fait, son monde naturel, son microcosme, n'est-ce pas, avec le monde arabe, c'est véritablement l'Iran qui n'a pas voulu de cela. Maintenant, si on se, je dirais, si on se sent solidaire, et non sans raison, des Palestiniens et de leur drame, il faut bien se rendre compte que le Hamas, c'est un des leviers du drame palestinien. Donc je crois qu'on est véritablement dans une sorte d'hubris, de représentation totalement imaginaire et dans une forme un peu de négation du réel.
L'Occident, c'est quoi? Ça représente quoi de nos jours?
Oh non, mais moi justement, vous savez, je suis pas du tout... Je pense que l'Occident, c'est une position géographique. On est toujours l'occidental de quelqu'un et l'oriental d'un autre pendant très longtemps. Le mot ne vient... Alors, au Moyen-Âge, Empire romain, on parle de l'œcumène. Au Moyen-Âge, on parle de la christianitas, la chrétienté. Au moment des Lumières, on parle de l'Europe. Le mot Occident vient à peu près à la fin du 19e siècle, début du 20e, autour de 1914-1918, pour dire qu'il est mort, que c'est fini. C'est, n'est-ce pas, le déclin de l'Occident de Spengler, la défense de l'Occident de Massis, la tentation de l'Occident de Malraux. D'un coup, le mot apparaît. Vous savez, c'est ce genre de mot valise qui apparaît, en fait, lorsque pour déplorer une réalité qui n'est plus là. Mais en fait, elle n'a jamais existé en tant que telle, cette réalité. Si l'Occident, c'est l'héritage gréco-latin, alors là, on va vite faire. Je veux dire, Aristote n'est connu en Europe qu'au XIIe siècle et Platon qu'au XVe. C'est un peu tardif. Si c'est l'héritage chrétien, ben, il y a trois christianismes qui sont livrés à des guerres sanglantes qui s'appellent les guerres de religion, n'est-ce pas? Et bon, quel christianisme? En ce cas-là, si on dit judéo-chrétien, c'est passé sur à peu près 14-15 siècles, véritablement, de persécution des Juifs. Et si on dit c'est les Lumières, ben il faut mettre dedans alors ce qui a suivi, malheureusement, 14-18, 39-45, Auschwitz, le Goulag. Donc, voyez bien que c'est une notion, en fait, valise. D'ailleurs, si je vous dis Occident, alors vous allez me dire, oui, ben, ah, c'est la démocratie libérale, c'est les élections, c'est l'état de droit. Mais jamais vous mettrez l'Argentine, par exemple, dans l'Occident, alors que vous y mettrez l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'en fait, l'Occident, ça n'a qu'un sens strict depuis 1945, c'est l'Alliance Atlantique, menée par les États-Unis, qui embrigade l'Europe, et en fait, c'est un cartel anglo-saxon.
Merci Jean-François Colosimo. Occident, ennemi mondial numéro 1, ça vient de paraître chez Albin Michel.
Merci.
On a maintenant rendez-vous avec Martial Libera, il est professeur d'histoire contemporaine. On va vérifier un certain nombre d'idées reçues sur l'Union européenne.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Martial Libera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut universitaire de technologie Robert Schuman de l'Université de Strasbourg et vous avez dirigé avec Sylvain Schirman la rédaction du livre « Idées reçues sur l'Union européenne » aux éditions Le Cavalier Bleu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Europe. On entend répéter que le Parlement européen n'a pas de pouvoir, que la Commission impose sa dictature, que l'Europe est ultralibérale, qu'elle détruit notre modèle social... Alors, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Une douzaine de spécialistes répondent dans le livre. Alors, commençons par, j'ai envie de dire, par un slogan, parce qu'on l'entend sans cesse répéter, l'Europe, c'est la paix. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai que la paix était et
et est un des objectifs essentiels de l'Europe communautaire. À ses débuts, lorsqu'elle est lancée par la déclaration Schuman le 9 mai 1950, l'Europe est confrontée à cette problématique de la paix. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous apercevez, quand vous regardez l'histoire de la construction européenne, que, en fait, tout est fait à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire entre les pays membres, pour éviter une guerre. L'obligation d'avoir un régime démocratique, l'obligation aussi évidemment de respecter les droits fondamentaux, les droits de l'homme, un système de relations entre les États membres qui est nourri par les négociations, le compromis, le refus de l'arbitraire, et puis aussi, on peut le dire, des politiques européennes qui consolident considérablement les interdépendances entre les Européens. Et au total, on peut dire que l'Europe, c'est effectivement la paix entre ses États membres. Mais cette paix n'est pas la fille de la construction européenne au niveau international. La paix qui se met en place à partir de 1945 est davantage due ou davantage la conséquence de la guerre froide, qui se traduit par un équilibre précaire entre deux blocs opposés, d'un côté le camp occidental, de l'autre côté le bloc soviétique. Et puis il y a d'autres éléments aussi qu'on met finalement assez peu souvent sur la table. À l'intérieur même de l'espace européen, les pays communautaires défendent un certain nombre de valeurs. Mais ces valeurs-là, les Européens, enfin certains États européens, en particulier la France, la Belgique, ne les défendent pas à l'extérieur, en particulier au moment des guerres de décolonisation qui débutent avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'achèvent pour ces pays dans les années 60. Et puis, il y a aussi une question qui se pose à propos de l'Europe et de la paix. Est-ce que l'Europe est capable d'empêcher les guerres, notamment à ses frontières ? Et la réponse est ici globalement négative. Les Européens ont du mal à faire en sorte que la paix advienne autour d'eux. C'est le cas à Chypre en 1974, c'est le cas en Yougoslavie dans les années 90, et puis plus près de nous, c'est ce qu'on observe également en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée en 2014, et puis évidemment depuis la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis 2022. Alors au total, on s'aperçoit que l'Europe est effectivement un facteur de paix, mais que face aux menaces actuelles, elle doit opérer un saut qualitatif dans sa politique extérieure, dans sa politique de défense, et ce saut qualitatif qui passe notamment peut-être par moins de dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, est aujourd'hui la condition essentielle pour que les Européens puissent continuer à vivre en paix.
Autre question, Martial Libera, parce qu'on l'entend beaucoup dire, l'Union européenne ne serait pas une démocratie, la Commission européenne imposerait sa dictature. Alors est-ce que c'est une idée reçue, ça, d'après vous ?
La Commission européenne n'impose pas, entre guillemets, sa dictature. Alors peut-être pour démêler le vrai du faux, faut-il revenir là encore aux sources de la construction européenne et parler de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au sein de laquelle avait été instituée une haute autorité qui est en quelque sorte l'ancêtre de la Commission européenne. Et cette haute autorité, puis ensuite la Commission européenne, représente en fait l'intérêt général européen, en même temps qu'il constitue une sorte de pouvoir supranational. Et lorsque l'on regarde le rôle actuel de la Commission européenne, ce rôle est double. Il s'agit d'une part de proposer des actes législatifs qui sont adoptés par d'autres instances européennes, on en parlera après. Et puis ensuite, il s'agit, lorsque ces actes sont adoptés, la Commission européenne est chargée de les mettre en œuvre. Mais la Commission européenne n'agit pas seule. Elle agit entourée d'autres instances. Je voudrais juste citer les trois principales qui expliquent, ce qui nous permettra de comprendre comment les institutions européennes fonctionnent, en tout cas la prise de décision. Il y a d'abord un Conseil européen qui est composé des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit plusieurs fois par an et qui, lui, donne les grandes directions stratégiques à l'Union européenne. À partir de ces directions stratégiques, le Conseil européen donne des fiches de route à la Commission européenne. Alors ce Conseil européen, vous voyez, c'est le pouvoir interétatique. Et lui donne en quelque sorte une feuille de route à la Commission européenne. Puis ensuite, lorsque la Commission européenne travaille, prépare ses actes législatifs, eh bien, il faut ensuite que ces actes législatifs soient approuvés globalement par deux instances. D'une part, le Conseil de l'Union européenne, qui est une espèce de chambre basse au sein de laquelle les intérêts des États sont représentés. Et d'autre part, par une instance qui prend de plus en plus d'importance, qui est le Parlement européen, élu au suffrage universel direct depuis 1979, et qui, au fond, incarne le point de vue des citoyens européens.
Eh bien, on va justement parler du Parlement européen, pour lequel on votera hein, dans un mois. Mais d'abord, on fait une pause, Martial Libera.
Europe 1, 9h, 10h. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadelli.
Martial Libera est notre invité ce matin. Il est professeur d'histoire contemporaine et avec Sylvain Schirmann, il publie « Idées reçues sur l'Union européenne » aux éditions Le Cavalier Bleu, un petit livre tout à fait d'actualité puisqu'il parle notamment du Parlement européen. Or, on va voter pour les députés européens dans un mois. Ce Parlement, est-ce que c'est une assemblée sans pouvoir, comme souvent on nous le dit ?
Oui et non. En fait, ce qui choque lorsque l'on parle du Parlement européen, c'est que celui-ci est élu au suffrage universel, et il est donc doté de la plus haute légitimité démocratique au niveau européen, mais que parallèlement, il ne dispose pas de tous les pouvoirs qui devraient découler du principe de la souveraineté populaire, et en particulier, il ne dispose pas du pouvoir de proposer des lois. Alors après le traité de Maastricht adopté en 1992, eh bien le Parlement européen obtient un pouvoir législatif d'importance puisque en fait les actes législatifs proposés par la Commission européenne sont presque tous, aujourd'hui 90% d'entre eux, le fruit d'une codécision entre le Conseil de l'Union européenne qui représente les intérêts des États et le Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen est saisi pour pratiquement tous les actes législatifs de l'Union européenne et qu'il faut que son vote soit positif. Et puis, le Parlement européen est aussi progressivement investi d'une sorte de vote d'investiture, c'est-à-dire qu'il est chargé d'approuver la nomination de la Commission dans son ensemble. Et on assiste ainsi à une parlementarisation du système institutionnel européen, avec depuis 2014 l'évolution du Spitzenkandidat, c'est-à-dire que normalement, la personne qui a dirigé la campagne d'un des grands groupes du Parlement européen, si ce groupe arrive en tête des élections, est nommé, en tout cas proposé à la nomination de président ou de présidente de la Commission européenne. Alors, évidemment, ce qui manque aujourd'hui, et ce sur quoi on insiste souvent, c'est que le Parlement européen n'a toujours pas le pouvoir d'initiative législative. Mais il faut quand même dire que s'il ne peut pas directement proposer des lois, il peut échanger avec la Commission européenne et suggérer à la Commission européenne de présenter des propositions de lois qui vont dans le sens où il a travaillé. Autre faiblesse actuelle du Parlement européen, il est exclu d'un certain nombre de décisions qui se prennent à l'unanimité, des décisions souvent de politique étrangère, mais pas uniquement. Et puis le dernier point sur lequel les pouvoirs du Parlement achoppent ou qui crispent un petit peu les gens, en tout cas qui frappent les esprits, c'est qu'il n'y a toujours pas de législation harmonisée à l'ensemble des pays de l'Union européenne pour les élections au Parlement européen. Alors même, et c'est un peu ça le paradoxe, que lorsqu'elle a été élue présidente du Parlement européen en 1979, Simone Veil, dans son discours, avait clairement expliqué que le travail de cette première mandature de ce nouveau Parlement européen serait justement de parvenir à l'harmonisation de la législation européenne pour les élections. Voilà.
Martial Libéra, il nous reste juste 2 minutes. Une question encore, peut-être une idée reçue, vous allez nous le dire, à votre avis. L'Europe déconstruit-elle notre modèle social, comme on le répète souvent ?
Sur la question sociale, il y a une sorte de quiproquo entre le rôle des États et celui de l'Europe communautaire. Là encore, un retour dans la moyenne durée historique, c'est-à-dire après 1945, nous donne un certain nombre d'éclairages très utiles. Après 1945, au fond, ce sont les États qui sont en charge de la politique sociale à travers ce qu'on a appelé l'État-providence. C'est la généralisation de la couverture sociale pour faire face à tous les aléas de la vie, la santé, l'emploi, la vieillesse. C'est la mise en place de la cogestion. C'est la place importante accordée aux services publics, notamment l'accès à l'éducation, à la formation, l'hôpital public. C'est aussi le fait que en Europe, eh bien, il y a des mécanismes de redistribution sociale qui sont extraordinaires et qui font que cette région, l'Europe, est très clairement celle dans le monde où le système social est le plus protecteur. Alors ça, c'est le départ. Ensuite, lorsque l'Europe est créée, avec la première communauté européenne, celle du charbon et de l'acier, la CECA, eh bien on voit que la CECA se greffe sur cette politique européenne des États. La CECA met en place un système de construction de logements sociaux. Elle permet l'harmonisation des conditions de travail des ouvriers du charbon et de l'acier. Elle associe les syndicats de ces domaines à son comité consultatif. Et puis ensuite, eh bien, les avancées sociales continuent de se faire au niveau national par une confrontation entre les centrales syndicales et le pouvoir politique. Au niveau européen, ce à quoi on assiste à partir des années 70, c'est au fond, là encore, une réplique. C'est-à-dire qu'en 1973 est créée la Confédération européenne des syndicats, qui est une instance chargée de défendre les intérêts des travailleurs face à la communauté économique européenne. Mais ensuite, il y a un certain décalage. C'est-à-dire qu'en 1975, la communauté économique européenne crée le Fonds européen de développement régional qui vise à lutter contre les inégalités, mais sur le plan géographique, hein, entre les différentes régions de la communauté économique européenne. Alors, après, c'est là où on assiste à une espèce de naissance un petit peu de cette idée reçue sur le fait que l'Europe déconstruirait le modèle social, qui n'est pas entièrement fausse. C'est qu'à partir de 1990, à partir du traité de Maastricht, de la naissance de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit que l'Union européenne encourage toujours un certain nombre d'avancées. Par exemple, elle met en place une forme de cogestion au sein de l'Union européenne, puisque lorsque le CES discute avec l'organisation patronale européenne Business Europe, eh bien cela peut donner lieu à des directives, dans le cas d'un accord entre ces deux parties, mais il y a aussi un certain nombre de reculs. Et ces reculs, notamment ceux qui sont consécutifs à la mise en place des critères de convergence au moment où on met en place la monnaie unique, eh bien, l'imposition de ces critères de convergence, en particulier dans le domaine du déficit, de la dette, de l'inflation, conduit dans les États membres un certain nombre de reculs des politiques sociales, avec l'allongement de la durée du travail, le recul de l'âge à la retraite, une politique plus restrictive en termes de rétribution du chômage, etc.
Merci Martial Libéra, je vous interromps. Je rappelle le titre de votre livre, Idées reçues sur l'Union européenne. Ça vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu. On fait une pause et on accueille Françoise Chandernagor. Vous allez voir, elle va nous faire aimer la Creuse.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Françoise Chandernagor.
Bonjour Frédéric Tadéhi.
Vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Votre premier livre en 1980, L'Allée du Roi, a été un best-seller. Vous venez de publier une tétralogie, La Reine oubliée, consacrée à la fille de Cléopâtre. Et aujourd'hui, vous sortez chez Gallimard, L'Or des rivières. Est-ce que vous pouvez nous raconter, surtout pour nos auditeurs, moi je l'ai lu dans votre livre, mais en quelques mots, l'histoire de ce titre, L'Or des rivières?
Bien, c'est un titre que m'a suggéré un jour François Nourricier. Il me l'a donné. Je revenais de l'Académie Goncourt avec lui, il en était le président à l'époque, et puis je lui dis en parlant comme ça, en bavardant, je n'ai pas le don des titres, hein, moi, vous avez un vrai don. Il avait de très bons titres pour ses livres et qui exprimaient vraiment le contenu du livre. Et alors, il me dit, écoutez, je vais vous donner un titre que j'ai pas pu utiliser. Et il me raconte que Jean Paulhan, qui était le grand homme de Gallimard, et qui avait trouvé notamment le titre de Autant en emporte le vent, ce qui était un bon titre, hein, quand il se demandait comment traduire le titre américain.
God with the wind.
God with the wind. Et il y avait des gens qui avaient dit Le vent du Nord, enfin des tas de titres, bon, plus ou moins farfelus, et lui a trouvé le bon titre. Et ils se sont mis à parler d'orpaillage, parce que Jean Paulhan était un orpailleur amateur, c'est-à-dire qu'il allait avec son ami dans les rivières et il cherchait des paillettes d'or. Il dit à Nourricier qu'il allait partir dans l'Ardèche pour l'été. Alors Nourricier lui dit, l'Ardèche, il n'y a pas d'or quand même. Et l'autre dit, mais si, bien sûr, il y en a dans toutes les rivières de France, il y en a même dans les fleuves, il y en a même dans la Loire. Et puis, tout d'un coup, il s'arrête, il dit, tenez, L'Or de la Loire, ça ferait un bon titre, ça. Et alors après, Nourricier me dit, voilà, le titre que m'a donné Paulhan, j'ai pas pu l'utiliser, je vous le donne, Françoise, faites-en quelque chose. J'ai cherché pendant longtemps ce que je pourrais faire avec L'Or de la Loire, mais je suis pas familière de la Loire, je connais les châteaux de la Loire, comme tout le monde, mais pas beaucoup plus. Et donc, tout d'un coup, je me dis, si je mets L'Or des rivières, je peux parler de la Creuse, qui, en effet, alimente la Loire, et qui, autrefois, plus maintenant, je pense, mais a eu de l'or, d'autant plus qu'il y avait des mines d'or dans la Creuse à l'époque romaine.
Mais plus que ça, vous dites que ça signifie, au fond, une richesse cachée, tirée d'un lieu banal, hein, qu'on a appris à regarder.
À aimer, quoi, depuis l'or. Et puis, c'est le trésor de l'enfance, aussi.
Exactement. Oui. J'ai l'impression, d'ailleurs, que la Creuse est un peu, pour vous, ce qu'était le massif de Garlaban.
Pour Pagnol. Ah mais oui, écoutez, j'y ai pensé un peu. En commençant ce livre, j'ai pensé à la gloire de mon père et le château de ma mère. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais au fond, c'est des moments où on a été merveilleusement heureux dans l'enfance, quoi. Et libre. Parce que lui aussi, c'est un enfant qui part à travers les collines avec ses copains, etc. Et moi, c'était pareil, parce qu'il n'y avait pas de danger à la campagne. Il n'y avait même pas de... Alors lui, il était quand même plus vieux que moi, mais même à mon époque, dans la Creuse, il y avait relativement peu de voitures. Beaucoup d'accidents d'ailleurs quand même. Mais pas de voitures, pas de route bitumée, enfin voilà, pas beaucoup. Donc nos parents nous laissaient toute la journée aller où on voulait avec les copains du village et puis ils nous revoyaient le soir, quoi.
C'est donc un livre sur la Creuse, une rivière mais aussi un département, hein, qui a longtemps souffert d'une mauvaise réputation. On en parlait comme d'un désert, un département où il ne se passe rien. On disait...
Hyper rural, le fin fond.
Voilà, on dit encore hein, de nos jours au fin fond de la Creuse. Or, c'est le pays natal de votre mère. Votre père, André Chandernagor, en a été député pendant plus de 22 ans avant de devenir ministre de François Mitterrand. Vous y vivez non loin de la maison construite par votre grand-père,
oui,
qui était maçon.
Oui,
hein.
C'est
un pays de maçons.
Ah,
oui. Un pays de maçons et de paysans.
Oui, alors de petits paysans, mais ils étaient des petits paysans libres, si vous voulez, parce que c'était pas comme dans l'Ouest français où il y avait des grandes propriétés, où les gens étaient métayers ou fermiers. Non, ils étaient faire-valoir direct. Mais ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et les plus pauvres d'entre eux, qui avaient 1 hectare, 2 hectares, et la Creuse était à l'époque surpeuplée, hein, il y a eu près de 300 000 habitants à un moment donné, ou un peu plus même. Et c'était terre très pauvre, granitique, bon c'est comme la Bretagne de l'intérieur, c'est pauvre. Et donc, ils avaient trouvé le moyen de partir. À partir de l'époque, ils ont construit Versailles, ils ont construit aussi le Paris haussmannien. Ils partaient 9 mois de l'année à Paris ou à Lyon pour construire. Ils travaillaient comme maçons, terrassiers, etc. Bon, les métiers d'ailleurs que font les immigrés hein, chez nous quand ils arrivent, très souvent. Alors eux étaient des migrants saisonniers. Ils revenaient trois mois pendant l'hiver parce que là, les chantiers étaient interrompus, il faisait trop froid, on ne pouvait plus travailler sur les chantiers. Et ils faisaient un enfant de plus, ce qui n'arrangeait pas les affaires. Bon, et ils repartaient. Et l'enfant naissait à l'automne et ils prenaient connaissance d'un nouvel enfant quand ils revenaient fin novembre, début décembre. Et donc, ils étaient à 70 ou 80% des jeunes étaient maçons migrants qui allaient à Paris dans des conditions, ils y allaient à pied. Hein. C'était des conditions terribles et ils vivaient là, à Paris dans les plus mauvais quartiers. Du reste, ils ont attrapé massivement le choléra en 1832 et ils l'ont semé à travers la France. Mais donc, c'était des gens qui vivaient dans des conditions assez inhumaines. Hein. Les immigrés récents ne vivent pas aussi mal, loin de là, que vivaient les migrants creusois.
La Creuse, dont on parle comme d'un département immobile, a tout de même beaucoup changé, alors à la fois depuis le 19e siècle, mais même depuis votre enfance, Jean-François Chandernagor, ça n'est plus aussi pauvre. Vous dites que la Creuse a parcouru 2 siècles en 50 ans.
Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai encore connu tous les gens vivant dans une seule pièce, en terre battue. Hein, la terre battue, bon. Et maintenant, bah, je vois bien que les agriculteurs et tout ont des maisons normal, un confort normal. Moi-même, dans mon village, on a eu l'eau sur l'évier que la veille de mon mariage, juste à temps. Hein. Parce que on faisait venir des Parisiens. L'eau est arrivée. Moi, on n'avait pas encore eu le temps de le mettre dans une salle de bain. Hein, bon.
Et pourtant, votre père était député.
Eh ben oui, mais alors en plus, on l'a relativement payé cher parce qu'il avait des principes. Et comme il était aussi maire de la commune, il avait fait mettre l'eau dans le bourg. Et puis après village, hein, l'adduction d'eau, c'était pas rien. Et il avait dit, le dernier village servi, le dernier hameau servi sera le mien. Parce que je suis le maire, donc moi, je sers tous les autres avant. Ce qui fait que nous, on a attendu très longtemps, donc j'avais 25 ans quand l'eau est arrivée.
En effet. Décrivez-nous la Creuse aujourd'hui. D'ailleurs, on y mange quoi ?
On y mange quoi ?
Ouais.
Bon, bah quand même, on mange à peu près comme le reste des Français.
J'imagine bien, mais c'est quoi les spécialités de la Creuse ?
Alors, écoutez, c'est traditionnellement le pâté aux pommes de terre, qui est fait avec de la crème fraîche, et qui est une tourte. Hein. Alors, c'est un truc de pays pauvre. C'est un truc de pays pauvre parce que la tourte, la pâte de la tourte, plus les pommes de terre, mais c'est délicieux. Alors, on a aussi le pâté aux poires, mais ça peut pas être fait avec n'importe quelle poire. Faut des poires qui ne soient pas juteuses du tout. Et c'est très bon, avec du poivre, c'est délicieux. Et le gâteau aux noisettes, qu'on appelle le creusois. Voilà, c'est ça, voilà. Mais aussi, on mange de la très bonne viande parce que c'est un pays d'éleveurs bovins et d'éleveurs uniquement pour la viande. Ils font pas le lait du tout. Hein. Ça, c'est pas la Normandie.
Non, effectivement. Alors, décrivez-nous la Creuse parce qu'il y a quand même énormément de gens aujourd'hui qui cherchent des maisons dans la Creuse.
Ben, je ne sais pas, c'est actuellement probablement les maisons les moins chères de France. Par ailleurs, ce sont, d'après les calculs des administrations compétentes, ou incompétentes d'ailleurs, mais enfin bon, il y aurait pas loin des 3/4 des maisons qui seraient des passoires thermiques, parce qu'elles ont été construites, c'est un habitat construit au 18e et 19e siècle, en granit, souvent, les maisons sont très souvent en granit. Mais le granit, c'est pas du tout isolant, hein. Contrairement à ce que les gens croient. C'est impressionnant, c'est vraiment des châteaux forts, si vous voulez. Il y a la quantité, mais ça laisse passer la chaleur, les courants d'air, tout ce que vous voulez. Alors, donc, vous pouvez acheter un château dans la Creuse pour le prix d'un 2 pièces à Paris, ou même peut-être que d'un studio, mais après, il y aura quand même du boulot pour l'isoler, le chauffer. C'est quand même... Finalement, les gens sont attirés, mais après, il faut être capable ou de faire les travaux soi-même, quoi.
Mais il faut dire quand même que c'est très beau, la Creuse.
Ben, il y a des endroits magnifiques. Alors, c'était encore plus beau dans mon enfance, ou c'est peut-être parce que c'était mon enfance. C'était un pays de bocage fermé, hein, très fermé. Il y avait énormément de haies, de bois, de tout ça. Alors maintenant, ils ont enlevé quand même pas mal de haies, parce que les exploitations sont beaucoup agrandies. Et moi, les vaches que je gardais, c'était des troupeaux de 6 vaches, quoi. En moyenne même, il y en avait de très inférieures. Mais disons, quand les gens étaient presque aisés, ils avaient 6 à 8 vaches. Bon. Et maintenant, vous avez des troupeaux de plus de 100 vaches, 200 vaches, etc. Alors, ils ont enlevé les haies, Et ça broute là-dedans. Alors, c'est quand même de l'élevage extensif, c'est-à-dire en plein air. Hein. Ils mangent de l'herbe, ce qui est quand même bien. Bon, parce que dans l'agriculture, on ne sait pas toujours aujourd'hui ce qu'ils mangent. Hein. Mais là, oui. Mais elles sont devenues sauvages, ces bêtes. On les garde plus, pas la peine. J'aurais plus d'emploi, moi. Comme petite fille, je faisais vachère. Maintenant, c'est fini. Et donc, le paysage, du coup, a un peu changé. Il est moins riche en arbres qu'il l'était. Et puis, nous subissons fortement le réchauffement climatique.
c'est resté une île, hein, assez peu desservie par les moyens de transport.
Ah oui,
il
n'y
a pas d'aéroport,
le train ne passe pas par la Creuse parce que les Creusois n'ont pas voulu au 19e siècle. Et du coup, l'autoroute qui suit à peu près, qui a été réalisée après Paris-Bordeaux, eh ben, elle suit, Paris-Toulouse, pardon, elle suit le trajet du train à très peu de choses près. Donc, elle ne passe pas non plus dans la Creuse.
Ouais, voilà. Alors, la Creuse, c'est dans le Massif central, hein, c'est dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, Nouvelle-Aquitaine.
C'est à la fois un avantage et un inconvénient.
Oui, alors c'est difficile à atteindre, parfois. Et puis en plus, on a des très mauvais trains, même jusque dans l'Indre et tout ça, ou Limoges. C'est des trains épouvantables que la SNCF a laissé tomber, comme on sait. Clermont-Ferrand aussi, ils nous ont abandonnés. Bon. Et la Creuse, c'est un pays qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une cuvette. Les Français croient tout le temps que c'est une cuvette. Mais non, c'est plein de collines et ça monte. Et il y a un plateau à 1000 mètres d'altitude, tout le sud, et c'est ce qu'on appelle le plateau des 1000 sources, le plateau de 1000 vaches. C'est un pays, autrefois, ça s'appelait comme province la Haute Marche. Et j'aimais bien ce nom, parce qu'il disait bien que c'était une région frontalière, entre le Limousin et l'Auvergne, entre le Limousin et le Berry, et c'était une région montueuse, quoi.
Ouais. C'est rare hein, qu'on dise autant de bien de la Creuse.
Ça va compenser. Et donc, j'ai envie de dire aux gens, commencez. On a beaucoup de gîtes ruraux, de chambres d'hôtes hein, dans le coin, surtout depuis que les Anglais achètent des maisons, et eux, ils font souvent chambres d'hôtes et tout. Alors, venez passer vos vacances dans la Creuse. Venez, vous pourrez faire de la randonnée, du vélo, de la natation, de la pêche, beaucoup de choses, du kayak même. C'est pas mon truc, mais bon. Et venez, et après, si ça vous plaît, vous trouverez alors à coup sûr une maison pour, comme résidence secondaire ou résidence pour la retraite.
Mais vous avez vraiment envie qu'il y ait tout à coup un afflux de touristes dans la Creuse ?
Un peu, mais pas trop. Parce que j'aime bien le côté secret. Hein. Et il y avait à un moment donné un slogan de l'Office du tourisme qui était « La Creuse, c'est encore un secret pour tout le monde ». J'aimais assez bien. Moi, j'aime bien être dans mon île. Mais pour le bien de la Creuse et des Creusois, je sais qu'il faut qu'ils aient des touristes, qu'il y ait un tourisme vert, quoi.
C'est pour ça que vous avez écrit ce livre, L'or des rivières, François Cherbernagor, qui vient donc de paraître chez Gallimard. Merci d'être passé par cette arrivée cette semaine pour nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 9h pour la suite. Je vous souhaite une excellente journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera Face à Philippe de Villiers, animé par Eliott Deval.